bonsoir à tous. À Mauléon, l'îlot du Renard va réserver un emplacement de choix pour un restaurateur. La ville qui réhabilite le bâtiment cherche la personne qui conviendra à ce beau projet. Un restaurateur qui, comme les hébergeurs du bocage bressuirais, pourra bénéficier de l'attrait du Puy du Fou. Le parc vendéen lance sa saison ce samedi après avoir accueilli 2 500 000 visiteurs en 2023. Dans le Thouarsais, en matière de tourisme, on mise sur la route des vins. Un périple de 50 km à travers 20 domaines viticoles. Et puis vous entendrez Laurent Villa, le futur ex-coach de Cholet Basket, donne sa version des faits au sujet de son départ annoncé du club.
La météo à l'issue du journal, le temps qui pourrait devenir orageux à partir de la soirée.
En bref, pour commencer, la polyclinique Inkermann vient d'obtenir sa certification, mention qualité des soins confirmée avec un score global de 92,35 sur 100. Un très bon résultat qui garantit que l'établissement satisfait aux exigences énoncées par la HAS en matière de qualité et de sécurité des soins. Se réjouit l'établissement niortais dans un communiqué publié cet après-midi.
Mauléon cherche perles rares.
Alors que les travaux de l'îlot place du Renard ont démarré la semaine dernière par la phase désamiantage des bâtiments, la petite cité de caractère est désormais en quête de trouver le restaurateur qui voudra bien venir s'installer dans ce quartier en cours de restauration situé en plein centre-ville, face à l'hôtel de ville et face à l'abbaye. Denis Prissé, adjoint chargé du commerce et du développement économique, au micro de Jacqueline Pinon.
Les travaux commencent là, jusqu'en juin-juillet 2025. Donc là maintenant, tout notre travail à nous, c'est de lancer les appels à candidature et puis d'aller chercher le restaurateur. On pense que pour avoir travaillé depuis plusieurs années maintenant sur ce projet-là, où on a intégré un restaurateur qui nous a aidé justement à monter ce projet techniquement aussi, on pense qu'on a un bel écrin. Tous les professionnels qui ont regardé un peu le dossier nous ont tous dit que c'était quand même quelque chose de vraiment à la hauteur. Donc maintenant, ben voilà, on va essayer d'aller chercher l'équipe, concrétiser. On aura fait notre travail d'une belle façon quand on aura trouvé le restaurateur qui va pouvoir animer ce lieu, et ce lieu qu'on estime nous extrêmement important pour le centre-ville. C'est un point de départ, quelque chose qui doit nous servir dans la stratégie d'animation du centre-ville.
La ville de Mauléon, propriétaire des bâtiments, les aura entièrement restaurés, à charge pour le futur restaurateur de s'approprier les lieux. 154 mètres carrés de superficie et 2 terrasses.
Donc là, en fait, on a un restaurant avec 50-60 couverts en salle, 40 couverts en terrasse, une terrasse à l'étage qui peut aussi être privatisée.
La balle est quand même dans le camp du restaurateur qui pourra s'approprier le bâtiment.
On nous a conseillé de laisser aux porteurs de projet. Toute la partie immobilier doit être prise à sa charge, la partie cuisine. Il doit poser sa touche, sa patte à l'établissement, sa signature à l'établissement. Maintenant, c'est à nous de trouver la
perle rare.
La perle rare, tout à fait.
Un investissement de 1 665 325 euros, très précisément, pour la ville. Largement subventionné par l'État, 400 000 euros, la région Nouvelle-Aquitaine, 233 000 euros, l'Aglo, tout comme le CIEDS, met aussi la main à la poche à hauteur de 30 000 euros chacun pour un autofinancement de 979 000 euros. L'appel à candidature pour trouver le futur restaurateur du centre-ville de Mauléon sera lancé début avril pour une ouverture espérée en juillet 2025.
Le Puy du Fou prépare pour une nouvelle saison.
La saison 2024 sera lancée ce samedi, avec sans doute l'ambition de faire encore mieux qu'en 2023, qui a vu 2,5 millions de personnes franchir les grilles du parc vendéen, un vivier de touristes qui profite aux hébergeurs, y compris dans le bocage bressuirais, où le nombre de logements locatifs touristiques ne cesse de progresser, comme le constate Philippe Robin, le directeur de l'office du tourisme du bocage bressuirais, qui s'évertue à prolonger le séjour des visiteurs du Puy du Fou.
Nous pensons très fortement qu'on va franchir la barre des 500 hébergements à la fin de l'année, ce qui est potentiellement énorme, ce qui nous place en tête dans tous les territoires qui sont autour du Puy du Fou, parce que nous, il ne faut pas se cacher, hein, c'est comme le Puy du Fou qui a notre grosse locomotive. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de proposer des week-ends, 2-3 jours, un petit peu plus sportive autour de la mobilité en venant de Paris, combinant le train, la location de vélo et l'accès au grand parc. Mais ça peut être aussi à Molivry, mais ça peut être aussi sur des destinations autour des Terraventura, qui fait la force de la Nouvelle-Aquitaine.
L'ouverture du Puy du Fou ce samedi 30 mars marque donc le début de la saison touristique. On va d'ailleurs en reparler cette fin de semaine puisque le parc organise une conférence de presse pour présenter sa saison.
La route des vins mise sur les rails en Toircet.
Elle devait naître l'an dernier mais elle a été portée sur les fonts baptismaux lors du 75e salon des vins de cette fin mars 2024. La route des vins du Toircet qui réunit 20 domaines viticoles constitue un centre d'intérêt nouveau pour le tourisme local, un périple de 50 kilomètres, très convaincant, comme le souligne le nouveau directeur de la maison du Toircet, Tristan Mercerolles, au micro colline de Dominique Hiraud.
C'est une route à travers donc plusieurs villages, notamment Saint-Martin-de-Sanzay, Bouilly-Loré, Saint-Pierre-à-Champs, Cercé, Bouilly-Saint-Paul, et Sainte-Verge-et-Thoire, bien sûr. Le plus près possible des domaines viticoles, à travers les vignes, vous avez une soixantaine de panneaux, et on a gardé le même logo que la route des vins du Val-de-Loire. Ce qu'on voulait surtout, c'était apporter un élément positif, un élément supplémentaire, avec trois haltes d'information. Une à Saint-Martin-de-Sanzay, où là, vous avez un spot extraordinaire sur le domaine du Belvédère, et on a mis des panneaux d'information, notamment sur la géologie, pourquoi il y a des vignes à Thoire. Et ensuite, on a fait une halte d'information à Bouilly-Loré, où on explique le travail des vignerons pendant 4 saisons. Et donc, on a là, à Bouilly-Loré, une randonnée pédestre de 7 km à travers toutes les vignes. Là, c'est extraordinaire. Et à Saint-Pierre-à-Champs, on a une histoire assez particulière avec une cabane de vignes où a été découverte la tombe de Monsieur Martin. Et donc là, la commune a créé toute une parcelle. Et donc nous, on va venir mettre des panneaux informatifs où là, vraiment, le thème, c'est l'homme et la vigne. Donc là, on va mettre des vieilles photos de vendanges, etc. pour expliquer tout le travail des vignerons à travers les époques.
La route des vins qui a mûri comme du bon vin pendant une dizaine d'années a séduit les visiteurs des salons de l'agriculture en 2023, mais aussi particulièrement cette année, comme en témoigne Tristan Mercerolles.
Et on a eu un succès extraordinaire, un accueil extraordinaire par les Parisiens et une découverte pour eux sur tous les vins Toircet. On leur a expliqué déjà où c'était les Deux-Sèvres, pour leur expliquer notre situation qui est extraordinaire entre le Puy du Fou, le Futuroscope, les Châteaux de la Loire et le Marais Poitevin. On a la chance d'être dans un milieu rural, apaisé, avec des tarifs touristiques qui sont tout à fait accessibles pour tout le monde. On attend maintenant la venue des Parisiens qu'on a pu rencontrer au Salon de l'Agriculture à Paris. On attend de leur faire découvrir notre territoire et la route des vins, tous les vignerons, tous les vignobles qui sont présents sur notre territoire.
Au final, cette mise en scène viticole de la route des vins a coûté au total 60 000 euros, financée à 20% par la communauté du Toircet, mais aussi par la communauté européenne. Touristique, elle permet également de consolider la filière viticole, jamais à l'abri de la fragilité économique. La route des vins ne demande donc qu'à faire, si l'on osait, un très long chenin. Un jeu de mots signé Dominique Hiraud.
22 ans de stabilité fiscale à Cerisay.
Pour 2024, et ce depuis plus de 20 ans, donc la municipalité a choisi de ne pas augmenter cette taux d'imposition locaux lors du conseil municipal. Ce lundi soir, la taxe d'habitation uniquement sur les résidences secondaires a été maintenue à 13,5%, la taxe foncière bâtie à 37,38% et la taxe foncière sur le non bâti à 54%, comme l'explique le maire de Cerisay, Johnny Brosseau, interrogé par Boris Blais.
C'est un choix, bien sûr, qui se pose à nous chaque année au moment du vote du budget. Est-ce qu'on se donne des marges de manœuvre supplémentaires? Mais à chaque fois, c'est vrai qu'on prend aussi en considération et en compte la population et les habitants de Cerisay. On sait qu'ils ont aussi à faire face à des charges nouvelles, l'inflation, la vie chère. Et le choix est fait, de se restreindre, travailler à budget constant avec les recettes et les moyens qui sont les nôtres et de faire des choix peut-être un peu plus contraints sur des travaux d'entretien, de voirie, d'investissement et travailler à notre budget constant.
On augmente la cantine quand même ?
Oui, c'est au-delà de la fiscalité, on va dire d'une manière globale, le coût des services. Et il y a nécessité quand même à faire face à des évolutions de prix, y compris pour la commune, sur les denrées, l'alimentation, les charges de personnel, les fluides, énergie, électricité qui augmentent. Et pour ça, on a besoin aussi de s'ajuster sur nos tarifs. Celui de la cantine en fait partie, avec une évolution de 3%.
Et pour la cantine, le coût d'un repas pour la ville est d'environ 9 euros, alors que les tarifs pratiqués oscillent autour de 4 euros. Concernant les impôts locaux, il est à noter que même si les taux n'augmentent pas, les bases de calcul de ces taxes générées par l'État vont augmenter de 3,9%, indépendamment de la volonté communale. Ce sera pour tous les habitants pareil. quelle que soit la commune. La gendarmerie a lancé une alerte sur une arnaque en cours du côté de Neuilly-les-Aubiers et les communes avoisinantes. Deux individus se faisant passer pour des gendarmes s'introduisent au domicile de personnes âgées sous le prétexte de recherche. Il s'agit d'une escroquerie à la fausse qualité. Si vous êtes témoin de tels faits, alertez immédiatement la gendarmerie en composant le 17.
Au lendemain de l'annonce du club le concernant, Laurent Villa s'est exprimé aujourd'hui.
Hier, la direction de Cholet Basket annonçait que Laurent Villa ne serait plus l'entraîneur de Cholet la saison prochaine. Le club lui proposait une prolongation de contrat, mais le technicien en poste depuis 3 ans avec de bons résultats ayant permis à CB de retrouver les playoffs et l'Europe a décliné la proposition. Vous avez sans doute écouté le président Mérignac ce matin sur Colline, mais Laurent Villa a aussi voulu faire entendre sa voix, estimant que le timing n'était pas bon, tant pour la décision que pour l'annonce.
Et prendre une décision aussi rapide, alors que certes il y a du mouvement en coulisses, mais rien de fixé, rien de statué. Je trouve que voilà, le timing n'est pas le bon, ni pour prendre une décision d'ailleurs, il n'y a pas d'urgence, ni pour annoncer quoi que ce soit. Mais ça, c'est mon point de vue.
Les négociations entre le club et le coach avaient commencé en décembre. Elles portaient sur le projet du club, mais aussi sur les termes du contrat. Et c'est là que le bât blesse, puisque Laurent Villa a refusé une première proposition qui portait sur un contrat d'un an assorti d'un an supplémentaire en cas de qualification au play-off, avec un salaire légèrement à la baisse. Une proposition jugée indigne par le technicien, qui a également rejeté la deuxième offre, qui proposait 2 ans de contrat, mais avec un salaire toujours inférieur à l'actuel.
Je trouve que c'est pas fair play, et compte tenu du travail fait depuis 3 ans, et quand on vous dit au quotidien, on compte sur toi, on veut continuer, tu fais de bon boulot, merci, enfin je veux dire, moi j'ai rien inventé, hein. Et quand on fait ce genre de proposition, franchement, c'est bizarre, et c'est pour ça aussi que je voulais que vous le sachiez, parce que on est dans une situation où s'il y en a qu'un seul qui parle, on prend pour argent comptant ce qui est dit. Or, il n'y a pas eu de détails. Il y a eu quelques arguments dans la non-connaissance de la masse salariale ou autre, et c'est vrai que ça fait partie des choses qui sont intéressantes de savoir avant de se lancer dans un projet. Mais avant tout, là, on parle de ma situation, de mon travail et d'une proposition de contrat.
Malgré d'évidentes tensions, Laurent Villa se dit totalement investi sur la fin de saison, prenant pour exemple le match de Saint-Quentin où il savait déjà que les négociations n'iraient pas plus loin. Son titre de meilleur entraîneur du championnat la saison passée lui confère une certaine cote sur le marché, mais le Pyrénéen nie tout contact avec tel ou tel club. Il a d'ailleurs confessé avoir refusé en août dernier, en respect de ses engagements, un poste d'assistant à Vitoria dans un championnat espagnol qui l'attire. Mais Cholet était-il assez ambitieux pour lui? Écoutez sa réponse toujours au micro de Vincent Nori.
Bien sûr, on progresse à la vitesse que l'on peut, avec les moyens que l'on a, mais après il faut essayer de progresser à tout point de vue. Donc on n'est pas d'accord sur tout, mais on a quand même aussi avancé sur pas mal de choses. Et aujourd'hui, il n'y a rien qui est écrit pour l'année prochaine, quoi. Je veux dire, au niveau du club, on ne sait pas si on fera des play-offs, on ne sait pas si on va être en Europe, il y a plein d'incertitudes. À partir de là, il faut être un peu patient, il me semble.
Laurent Villa va donc quitter Cholet à la fin de la saison, mais celle-ci n'est pas finie et le club pointe à la 6e place avec 8 matchs à jouer en saison régulière et 6 matchs face à des moins bien classés. CB a donc une carte à jouer dès samedi à la Meilleure face à Nancy. Thierry Vincent en handball va quitter Celles-sur-Belle, on le savait déjà, mais on apprend cet après-midi via nos confrères de la PQR que le coach va vivre une nouvelle expérience en Italie, à Salerne, en D1, un beau projet pour celui qui ne souhaitait plus entraîner en France après la relégation administrative du club sellois, qui sera entraîné la saison prochaine par son adjoint actuel, Maxime Martin. En cyclisme, la belle perf de Thomas Gachignard sur une épreuve World Tour ce mercredi, le Deux-Sévriens de l'équipe Total Energy se classe 10e de la classique à travers la Flandre, marqué par la victoire de Jorgensen et par la lourde chute de son leader Van Aert.
Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Seolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
On a eu des éclaircies, même belles, hein, en fin d'après-midi.
Et on annonce pourtant une possible dégradation orageuse pour la soirée et la nuit, avec un vent qui va souffler encore plus fort, les rafales jusqu'à 80-90 km/h. La matinée de demain pourrait être encore orageuse, risque qui disparaît pour l'après-midi. Encore de fortes rafales de vent le matin et jusque dans l'après-midi. Côté ciel, une domination des nuages ce jeudi avec plus ou moins de pluie, minimale de 4 à 6 degrés, des maximales allant de 10 à 14 du nord au sud du département. Une petite précision concernant Cholet Basket, Vincent, qui couvrait le point presse cet après-midi, me précise que le match de samedi est à Nancy, oui. Non pas à la Meilleraie.
J'allais rectifier.
J'étais impatient de voir ce que ça allait donner.
Oui.
Prochain match à la Meilleraie pour CB, ce sera le 6 avril contre Gravelines.
Voilà, tout est rectifié, tout est rentré dans l'ordre. Merci beaucoup Fabien. C'est tout pour l'actu près de chez vous aujourd'hui, autour demain matin.
Demain matin à 7h avec Patrice Bémanangy. Bonne soirée.
C'était la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres. L'énergie est notre avenir, économisons-la.